Bonjour à tous, vous écoutez Quinoa Superstar. Quinoa Superstar est un podcast lyonnais qui donne la parole à des invités qui ont tous un point commun, ils veulent que le monde dans lequel on vit soit un petit peu plus beau chaque jour. Pour cela, ils ont chacun leur méthode, leur histoire, on les reçoit pour en discuter avec eux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler travail d'intérêt général, nous allons parler de l'univers carcéral français et nous allons parler du taillage des haies de la mairie de Levallois-Perret. Et pour en parler, on reçoit Sylvain L'Huissier et Léa Grujon. Salut Léa, salut Sylvain.
Salut.
Bonjour.
David, vous allez bien?
Ça va.
Je suis très heureux de vous recevoir. On va parler de chantier passerelle pendant une heure et on va parler de vous. Pour commencer, qui est-ce qui m'explique ce qu'est Chantier Passerelle ? Qui se lance ?
À toi l'honneur.
Chantier Passerelle, c'est une entreprise sociale qui a été créée il y a 5 ans pour contribuer à développer les alternatives à la prison. Okay. Et plus largement pour rapprocher le système carcéral, qui est un système fermé, des citoyens. Permettre aux citoyens de mieux s'approprier et mieux comprendre ce sujet.
D'accord, donc on va le faire un petit peu ensemble. Comme on le disait en off avant d'attaquer, c'est un sujet que la personne lambda connaît mal. Donc il va falloir nous expliquer ça va peut-être être basique pour vous, mais il va falloir nous expliquer en deux, trois mots. On parle de TIGE, je crois, de travail d'intérêt général, quand on parle de chantier passerelle, on parle du système carcéral français. Est-ce qu'en deux mots, vraiment sans que ça soit trop compliqué, vous sauriez nous expliquer les grandes lignes du fonctionnement déjà actuel du système carcéral ? Là, Léa, tu es obligée d'y aller.
Le fonctionnement actuel du système carcéral. Ben, nous, notre postulat de départ dans l'association, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de système carcéral, on pense à une peine, qui est la peine reine en France, qui est la peine de prison, et qui est aujourd'hui beaucoup critiquée parce que c'est une peine qui est à la fois chère, on compte 100 euros par jour et par personne détenue en France, qui est aussi critiquée pour les conditions de détention, puisque voilà, il y a un taux de surpopulation carcérale, donc un taux d'occupation qui est énorme dans les prisons françaises, qui atteint parfois jusqu'à 200%.
Ouais.
Et puis surtout, c'est une peine qui est critiquée parce qu'elle est, elle est jugée comme étant inefficace contre la récidive.
Ouais.
Les personnes qui sortent de prison peinent à se réinsérer et sont souvent plus exclues qu'à l'arrivée.
Donc c'est-à-dire que là où la peine de prison devrait pouvoir corriger le tir de certaines personnes, mais après les aider à se réinsérer dans la société, c'est plus quelque chose qui va les exclure quasi définitivement dans beaucoup de cas. Donc les taux, les chiffres, je crois que c'est 2/3 de récidive à 5 ans pour les emprisonnements lourds, enfin les emprisonnements tout court, c'est à peu près ça.
Oui, c'est quasiment 2/3 de personnes qui sont recondamnées dans les 5 ans qui suivent la sortie de détention.
Et donc le chantier passerelle travaille sur les alternatives à cet emprisonnement, comme on l'imagine. Donc, alors, juste pour bien savoir de quoi on parle, l'emprisonnement dont tu parles, c'est je suis en prison, je dors en prison, je vis en prison, j'ai des matons qui me ferment la porte le soir, j'ai quelques heures dehors dans la journée, quelques heures où je peux aller lire ou travailler dans la prison. Et ça dure le temps de ma peine, quoi. C'est ça.
On dit plus maton, c'est pas bien, mais c'est des surveillants pénitentiaires.
Surveillants pénitentiaires, autant pour moi. Donc ça, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on voit dans les films, en gros, hein, c'est le prisonnier. Alors, on voit souvent des prisonniers américains, nous, avec une tenue orange. Donc, les alternatives qui existent à cet emprisonnement, qu'est-ce que c'est ?
Il y en a plusieurs des alternatives à la prison qui existent depuis longtemps. Il y a d'abord le sursis avec mise à l'épreuve, donc la personne est condamnée à une peine de prison mais qu'elle n'effectuera pas avec une mise à l'épreuve. Elle va devoir suivre un certain nombre d'obligations et d'interdictions. Et puis il y a une autre peine sur laquelle nous on a beaucoup travaillé au niveau de chantier passerelle, qui est la peine de travail d'intérêt général. Donc la personne condamnée va devoir travailler un certain nombre d'heures sans rémunération au profit de la collectivité. Donc ça va être un travail dans une mairie, dans une collectivité publique, dans une association ou dans une entreprise chargée de mission de service public.
D'accord. Et vous avez travaillé, vous, à faire le lien entre l'administration pénitentiaire et les potentiels utilisateurs de travail d'intérêt général ?
le constat initial de l'association, c'était que la peine était très peu utilisée. Et quand on creusait pour savoir pourquoi, on se rendait compte qu'il manquait des lieux d'accueil pour accueillir des personnes en travail d'intérêt général, d'abord. Donc on a mené un travail de promotion de cette alternative à la prison, à la prison, de prospection de nouvelles structures d'accueil. Et puis, donc, dans le but de développer une offre de poste pour permettre aux magistrats de plus utiliser cette peine.
D'accord, parce que donc votre analyse, c'est qu'il était sous-utilisé parce que trop compliqué ou parce qu'il n'y avait pas la logistique qui suivait derrière, c'est ça ?
En fait, c'est une peine qui est hyper originale et à la fois, c'est ce qui fait aussi sa difficulté, c'est qu'elle repose sur l'implication de la société civile.
Ouais.
Donc sur une implication citoyenne. Et cette implication citoyenne, il faut qu'elle soit... il faut qu'on lui permette d'exister. Il faut... Enfin, voilà. Pour qu'une association, par exemple, se dise, tiens, je vais accueillir une personne en travail d'intérêt général dans ma structure, il faut qu'elle puisse savoir qu'elle peut le faire. Et ensuite, il faut qu'elle puisse savoir comment le faire.
Et ça fait peut-être peur aux gens qui... Je me mets à la place d'un président d'asso ou de... C'est peut-être quelque chose qui fait peur de se dire je vais recevoir quelqu'un qui aurait pu être derrière les barreaux, comment ça va se passer. Vous avez peut-être des premières craintes à débobiner chez les potentiels... je sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Les gens qui vont recevoir, enfin qui vont accueillir un travailleur d'intérêt général.
Alors c'est des tuteurs. Donc c'est les personnes comme un stage qui vont accueillir et encadrer la personne tout au long de la peine qu'elle va réaliser. Oui, il y a des a priori à déconstruire. Voilà, les gens se font des représentations parce qu'on parle très peu de ce sujet en France. Après c'est pas le principal frein. Au final, les gens n'ont pas très peur. C'est pas non plus des grands criminels qui sont accueillis en travail d'intérêt général.
Bonjour, Nordal Lelandais, viens me faire la compta. Non, c'est pas...
Non, normalement ouais. ça se passe pas comme ça. Et puis surtout, il y a le fait que ça marche. Donc, on a des tuteurs qui sont très contents et qui peuvent venir en parler à d'autres tuteurs pour partager leur expérience. Presque 90% des peines qui sont exécutées se passent très bien. Et quand c'est pas le cas, c'est... de l'absentéisme et du retard.
Ouais.
Donc voilà ce que risque le tuteur, hein, c'est que la personne condamnée se pointe pas un matin parce que ça a été trop dur de se lever. Donc c'est un risque léger.
Oui, puis ce que tu disais, j'imagine que c'est pas le tueur en série qu'on a récupéré dans Lyon ou le meurtrier qui va faire un travail d'intérêt général. Lui, globalement, c'est peut-être celui qui a le plus de légitimité à être sous les verrous, on imagine.
La majorité des personnes qui sont condamnées à un TIG, c'est des personnes qui sont condamnées pour des vols, des délits routiers, des outrages à agents, des tags. D'accord. C'est vraiment des délits que la loi considère comme étant de faible gravité.
D'accord. Donc, comment ça s'est passé donc, c'est toi, Sylvain, qui est à l'initiative du chantier Passerelle avec une autre personne il y a 5 ans ?
Oui, on était deux à la création avec Agathe Zebrowski.
Et dès le début, vous aviez déjà cet axe de travail ou c'est passé par peut-être pas mal d'évolutions ? Il y a peut-être eu du chemin de fait depuis ?
Oui, ça a bougé au début, ça a bougé aussi pendant la vie de l'association. L'idée initiale, c'était pas forcément de dire il faut absolument développer le travail d'intérêt général. Le travail d'intérêt général, c'est pas une solution miracle. Le constat, c'est qu'on a un système complètement déconnant parce qu'on met en prison des gens qui n'auraient pas forcément à y être et qu'ils ressortent, comme disait Léa, avec des difficultés pour se réinsérer, encore pire que si on les y avait pas mises. Une des principales raisons à ça, c'est que la société connaît pas ce sujet, s'y intéresse pas et donc exclut par fantasme les personnes qui sont condamnées. Donc à ce niveau-là, le travail d'intérêt général, c'est un bon outil parce que ça réimplique la société et ça permet à des tuteurs de se rendre compte que en fait, la personne condamnée, elle est comme toi, Léa, moi, et que voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais le projet initial, tout début, et c'est pour ça que ça s'appelle Chantier Passerelle, c'était de créer un parcours de formation dans les métiers du bâtiment pour des personnes qui sortent de prison.
Ok.
Voilà, donc la petite évolution du début. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de travailler sur comment on évite que la personne rentre en prison si ce n'est pas nécessaire.
D'accord. Donc en 5 ans, j'imagine que vous avez pas mal de choses à nous raconter sur ce que vous avez pu faire. Aujourd'hui, concrètement, l'activité de Chantier Passerelle, c'est quoi aujourd'hui, au quotidien ? Peut-être Léa ? Alors, juste, Léa déteste parler dans le micro. Elle est stressée.
Mais non. Je préfère parler à des vrais gens qui sont en face de moi.
Alors, parle-moi, mais il y aura juste le micro dans l'axe, tu vas voir. Mais fais comme s'il n'était pas là.
Chantier Passerelle a développé trois actions principales. Cette première action dédiée spécifiquement au travail d'intérêt général. Donc, l'association a créé le forum du TIGE, mm-hmm. qui est un réseau national dédié à cette alternative.
Ouais. Alors ça, on va peut-être le dérouler un peu plus, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on va revenir dessus après. Donc, il y a le forum, mm-hmm. c'est la première action, le premier axe de travail de Chantier Passerelle.
Oui. Une deuxième action qu'on a développée, qui aussi peut-être est aussi plus inspirée de ce qui avait été initié au départ, donc qui sont des parcours passerelles. Mm-hmm. Donc c'est des stages dédiés aux personnes qui sont condamnées, qui sont organisées avec les services de la justice et pendant lesquels on travaille sur des leviers pour se remobiliser au niveau professionnel, citoyen, social. Mm.
Ça, c'est vous qui les organisez ou c'est comment ça se passe concrètement?
C'est l'association qui les organise en partenariat avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont les services de la justice sur les départements.
Okay.
Et on fait intervenir en fait tout un réseau d'intervenants, un réseau de compétences pour permettre aux stagiaires de découvrir des métiers, de reprendre confiance en soi, de aussi identifier quelles sont les ressources à leur disposition et connaître aussi le territoire sur lequel ils sont.
Ok.
Voilà. Et puis on a développé aussi une troisième action qui est une action de sensibilisation. Voilà, on dit souvent que le sujet justice-prison est un sujet qui est assez peu audible.
Ouais.
Et donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir décloisonner ce sujet et ouvrir des espaces originaux, ludiques, ouverts à tous, pour apprendre aussi, débattre et puis agir sur ces sujets. Donc on a créé des formats comme des apéros justice, des cafés citoyens, mais avec le terme apéro, ouais. ça fait venir plus de monde. voilà, c'est des espaces pendant lesquels, à travers des jeux, voilà, on comprend aussi comment fonctionne la prison, on comprend quelles sont les alternatives, qu'est-ce qu'il est possible de faire en tant que citoyen.
Donc là, c'est de la pédagogie ouverte à tous.
Voilà, l'idée, c'est que vraiment chacun puisse venir avec ses questions, peut-être aussi ses a priori, et en échanger de façon apaisée et éclairée aussi. Mmh.
C'est quoi les plus gros a priori auxquels vous avez à faire face, qui reviennent systématiquement? J'imagine que je fais partie des gens qui les ont probablement, enfin parce que je connais très peu le sujet également. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont ancrées dans la tête de la plupart des Français qui sont déjà totalement fausses?
Quand on joue un petit peu, par exemple, à demander aux gens comment ils se représentent la part de personnes qui sont condamnées pour des crimes. Donc crimes, on met viol, meurtre ou très graves agressions avec multiples armes. Mmh. Les gens pensent que c'est à peu près 30, 40, 50, des fois 60% des personnes qui sont condamnées pour des crimes. Alors qu'en réalité, je ne veux pas me tromper sur les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à moins de 10% des condamnations d'ensemble. Donc il y a une représentation à cause des faits divers qu'on voit.
Ouais.
Tu parlais tout à l'heure de Monsieur Lelandais, voilà. On voit que ça et on imagine que les prisons sont remplies de personnes qui sont là pour meurtre en multirécidive. C'est pas la réalité, donc ça c'est une première représentation à laquelle il faut faire face, c'est que la majorité des personnes qui sont en prison, notamment dans les maisons d'arrêt, qui sont les prisons surpeuplées, sont là pour
donc trafic de stupéfiants, c'est cambriolage, trafic de drogue, ouais.
Délit routier. J'entendais encore hier parler d'une prison qui est remplie à plus d'un tiers de personnes qui sont là pour des délits routiers.
Ouais.
Donc ça, les gens n'ont pas la représentation du conduite sans assurance, conduite en état d'ébriété, conduite sans permis.
Ok. Donc, en gros, donc, on rappelle les chiffres. On a, alors je ne sais pas s'ils sont parfaitement à jour, mais je crois que c'est les chiffres de 2016, il y a 70 000 personnes incarcérées en France. Donc ça fait 0,1% de la population globalement. Et donc en fait, dans ces 70 000 personnes, il y en a grosso modo 7 000 qui sont là pour des faits d'agression, de meurtre, enfin des choses vraiment graves, qu'on peut considérer comme vraiment grave, la majorité étant des gens qui sont là pour soit des délits routiers, soit des cambriolages, des vols, du trafic de drogue, des choses qui sont moins impactantes qui font moins peur quand on est voisin de ce gars-là.
Oui, alors je voudrais pas dire des bêtises sur les chiffres et puis surtout j'aime pas forcément classifier en disant ça c'est grave, ça c'est pas grave,
ouais.
Parce que se faire cambrioler c'est pas agréable non plus et un cambriolage c'est grave. Mais oui, la proportion des personnes en prison qui sont là pour viol ou meurtre restent très faibles. Mmh. Après, donc, c'est ceux qui sont là pour le plus longtemps aussi, donc ils ouais. finissent par représenter une partie plus importante de la population, mais c'est pas celles qui rentrent et sortent. Il faut d'accord. avoir en tête que la durée moyenne d'incarcération en France, elle est en dessous d'un an.
D'accord. La oui, majorité donc en fait, des gens rentrent en prison
pour moins d'un an.
D'accord. Donc il y a de très nombreuses courtes peines alors finalement. Okay. Ouais. Alors tous ces chiffres hein, sont consultables sur, je l'ai noté donc sur justice.gouv.fr tout simplement. Donc pour les auditeurs qui veulent s'y intéresser, qui veulent en savoir un petit peu plus, il y a beaucoup d'informations. Léa, tout à l'heure tu parlais du coup c'est les forums du TIGE, c'est
du ça ? Du forum du travail d'intérêt général.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Comme le disait Sylvain tout à l'heure, ce dont on s'est rendu compte sur le travail d'intérêt général, c'est que voilà, malgré le travail des services de la justice, il y a trop peu de postes de TIGE en France et de structures qui s'impliquent ouais. sur ce sujet. Du coup, l'objectif de ce forum, c'est à la fois de promouvoir cette peine, de la rendre accessible et intéressante pour les structures. Donc on a développé un film de 2 minutes sur le TIGE, des événements originaux sur ce sujet. Donc à la fois promouvoir et puis former les tuteurs dans les structures pour déconstruire des préjugés, rassurer, permettre aussi de savoir comment on peut mieux favoriser l'insertion de la personne pendant son TIGE. Promouvoir, former et aussi connecter les acteurs. C'est vraiment ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un réel besoin en fait de sentir qu'on fait partie d'une communauté en tant que citoyen qui agit ouais. sur ce sujet et pouvoir aussi avoir des retours d'expérience. Donc on a créé une plateforme numérique qui permet en fait de mettre en valeur toutes les initiatives en France sur ce sujet. Donc avec des annuaires de postes de TIGE, un mur des pratiques innovantes. L'objectif, c'est qu'une association sur un territoire puisse aller expliquer sa pratique en ligne et qu'une association sur un autre territoire puisse voir comment un père a fait, quelles difficultés il a surmontées, comment aujourd'hui il fait pour s'engager.
On est en manque aujourd'hui de structures susceptibles d'accueillir des travaux d'intérêt généraux ?
On est en manque de structures susceptibles ouais. d'accueillir et on est en manque de structures différentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui s'impliquent sur ce sujet. Il y a peut-être trop peu de nouvelles structures qui pourraient s'impliquer. Par exemple, tout ce qui est même des bailleurs sociaux, des associations sur des sujets très différents, en fait, qui pourraient proposer des postes de TIGE différents. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment cette vision, même à l'américaine, du fameux TIGiste qui va ramasser les papiers au bord de la route.
Ouais, moi, je les vois souvent dans les films, ils vont casser des cailloux sur le bord d'une route. Pour,
ça, c'est le bail. C'est pas les travaux forcés.
Ah, c'est ça, d'accord.
Aujourd'hui, il y a des structures qui développent des postes de TIGE dans des postes d'archivage, de communication, d'animation. Il y a même des troupes de théâtre qui accueillent des personnes en TIGE. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir être un tremplin vers l'emploi et vers ouais. la citoyenneté. Et ce tremplin-là, il doit s'adapter au marché de l'emploi en France, mais aussi à la diversité des profils des citoyens.
Donc on va lancer un appel aux auditeurs. Quelles sont les structures qui sont les plus adaptées ? Enfin, j'ai compris que c'était large, on pouvait imaginer plein de choses. Mais quelles sont les structures qui pourraient très facilement faire appel à des TIGE, eux en bénéficier, et auxquelles vous avez envie de faire appel aujourd'hui ? Peut-être des. Alors au début vous parliez du bâtiment, hein, le secteur du bâtiment qui est peut-être en plus qui a souvent du mal à recruter en plus, et qui peut former des gens à des métiers qui pourront exercer toute leur vie. Mais il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas.
Alors, il faut juste revenir sur le fait que les structures qui ont le droit d'accueillir des personnes en travail d'intérêt général, c'est des structures qui ont, dans leur statut, une dimension d'intérêt général.
Ouais.
Donc, une entreprise privée du bâtiment ne peut pas accueillir des personnes en travail d'intérêt général.
Oui, ce n'est pas Bouygues qui va les embaucher.
Après, ça n'empêche pas que des structures ont des activités du bâtiment secondaire, notamment. On pense aux bailleurs sociaux qui ont des actions d'entretien à mener.
Ou pour les mairies, j'imagine qu'il y a, le bâtiment c'est large et il doit y avoir des structures peut-être associatives qui ont besoin de monde.
Oui, et puis des chantiers d'insertion qui se développent aussi sur les secteurs du bâtiment. Après, c'est pas forcément ces postes-là qui manquent, comme disait Léa. Ouais. Le bâtiment, l'entretien d'espaces verts, on est sur le classique du travail d'intérêt général. Faut réussir à aller chercher d'autres types de compétences, plus sur de l'administratif, de l'accueil. Il manque souvent des postes pour accueillir des personnes en soirée et le week-end, parce que l'avantage du travail d'intérêt général, c'est que des personnes qui travaillent peuvent faire leur peine de tige en plus. Donc elles vont travailler le soir, elles vont travailler le week-end, et ça, ben, une mairie, souvent ça fonctionne pas.
Ouais.
Donc là, au niveau des associations, il y a des choses à envisager, parce que souvent les associations peuvent être plus actives à l'heure où les personnes actives ont le temps de faire du bénévolat. Donc il y a des choses à imaginer à ce niveau-là. Donc quelles structures on peut aller chercher? Massivement les bailleurs sociaux. Vraiment, il y a une activité énorme à développer là-dessus. Les entreprises chargées de missions de service public, celles qui gèrent l'eau, les transports, l'électricité, pour ne pas les nommer. Et puis les associations. Toutes les associations d'insertion sont un peu sensibilisées au sujet.
Ouais.
Mais les associations dans le champ de la culture... du handicap aussi ont des choses intéressantes à proposer et ne sont pas forcément aujourd'hui au courant qu'elles peuvent le faire.
Des SPA même, on en a vu.
Ouais, ok.
En fait, nous, on avait aussi à cœur dans nos actions à la fois de recenser les initiatives des structures en France et de les valoriser. Et pour le faire, on a organisé l'année dernière deux projets. Un projet de Tour de France du travail d'intérêt général. Donc on a organisé 8 événements sur 5 régions. Qui ont permis de rassembler au total près de 950 participants. Et donc l'idée,
oh, 10
000. Allez, 1000.
1000.
Avec nous en plus. L'objectif, c'était qu'en fait, sur une demi-journée ou une journée, en partenariat avec les services de la justice des territoires, on puisse rassembler tous les acteurs du TIGE. Donc des justiciables qui venaient témoigner de leur parcours jusqu'aux magistrats, autour de tables rondes, d'ateliers. Pour valoriser, donner la parole à ceux qui s'impliquent au quotidien sur ce sujet, puis aller rassurer et donner envie à de nouvelles structures de s'engager. Et en parallèle de ce projet-là, et pour le clôturer, on a organisé un événement à la maison du barreau de Paris en juin dernier, dans le cadre duquel on a remis un prix d'initiative pour le travail d'intérêt général. Et donc ce prix d'initiative, il était précédé d'un appel à candidature nationale pour toute structure qui, en France, accueille des personnes en TIGE et le fait de façon soit originale, soit avec une pratique particulièrement intéressante pour l'insertion des personnes. Et donc dans ce cadre-là, on a récompensé le 27 juin dernier des structures qui agissent sur ce sujet. Donc c'est la ministre de la Justice qui est venue de remettre le premier prix à une ferme urbaine francilienne.
Okay.
Sur ce sujet.
Donc ouais, alors tiens, c'est intéressant ça. Les différents lauréats. Alors donc il y a la ferme urbaine.
Il y a la ferme urbaine. Il y avait le bataillon des marins pompiers de Marseille qui accueillait une structure d'insertion à l'emploi chôme actif sur le Puy-de-Dôme. Qui proposait aussi un accompagnement pour passer le code et le permis en plus avec un accompagnement gratuit en plus assez aux bénéficiaires. On avait également
la ville de Cergy. En région parisienne aussi,
ouais.
Qui c'est intéressant, en plus d'accueillir des personnes en travail d'intérêt général, proposer un stage pendant la durée de la peine qui permette de travailler sur les questions de citoyenneté. Donc c'est un moment comment, dans le temps de la peine, on arrive à mettre aussi des choses qui favorisent l'insertion.
On avait Mediaton aussi, qui est une association lyonnaise. Nos copains, qui organisent des spectacles, et notamment en détention, et qui a une vraie pratique, une vraie réflexion sur comment on permet aussi aux personnes en TIGE d'avoir peut-être une envie de s'engager au niveau associatif, et puis aussi tout simplement de découvrir le milieu culturel qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà. Et puis on avait une dernière structure aussi. Il me semble. Bon, désolé, on a fait trop de choses.
On les rajoutera au montage.
Voilà.
Ok. Et le forum du travail d'intérêt général, c'est quelque chose que vous organisez de manière récurrente ou c'était une expérience qui pour l'instant pas amenée à se renouveler? Vous êtes
Alors, le forum, c'est le nom du réseau, donc c'est une activité vraiment...
Ah, pardon, c'est pas un
événement.
C'est pas cadré dans le temps.
Voilà.
C'est permanent.
Donc c'est une action permanente, donc ça comprend l'action de formation.
D'accord.
Voilà, par le mot forum, on voulait aussi dire que c'est une place ouverte à tous, c'est un lieu citoyen. Donc il ne s'agissait pas forcément de dire qu'on fédère les structures qui accueillent des personnes en travail d'intérêt général, mais plus qu'on propose un lieu où elles peuvent mettre en commun. Mmh. Voilà. Donc après, c'est par rapport à l'actualité de Chantier Passerelle, c'est en mouvement, puisque c'est une grosse satisfaction, mais après 4 ans où on a agi sur le sujet, le ministère de la Justice a décidé de créer une agence du travail d'intérêt général, donc une structure d'État qui va avoir comme mission de développer les postes de travail d'intérêt général et de porter beaucoup plus loin l'utilisation de cette alternative à la prison.
Et qui va peut-être débaucher une partie de l'effectif de Chantier Passerelle ?
On verra. On verra. Mais du coup, ça veut dire que cette mission du forum, elle va être reprise par l'action publique. Et c'est une bonne chose, parce que c'est le rôle du secteur public de faire ça.
Puis bien du coup, avec sans doute des moyens qui vont être plus facilement accessibles, avec potentiellement un impact plus large.
On peut s'attendre à un passage à l'échelle des moyens et des actions. Après, il va falloir réussir à garder la dimension citoyenne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le travail d'intérêt général, ça repose sur des tuteurs qui sont des citoyens qui s'engagent sur leurs valeurs propres. Et donc voilà, il ne faut pas que l'institutionnalisation de ce type de démarche fasse que les citoyens qui s'engagent se sentent un peu désappropriés de leur propre levier d'engagement. Je pense que c'est ça le défi de toute structure qui passe des choses à l'échelle, c'est aussi comment le lien humain qui fait que les gens s'engagent n'est pas perdu par le fonctionnement d'une plateforme, qui est un des outils que cette agence d'UTIGE devrait développer.
Et c'est le fait que vous ayez lancé le forum qui a créé cette initiative publique ou c'est une concordance de calendrier pour vous ? Vous êtes clairement l'initiative de ça ?
Il n'y a pas de lien direct et immédiat. Après, nous, on croit au labourage. Ouais. Voilà, je pense qu'on aura labouré le terrain avec plein d'autres gens qui se seraient engagés pendant plusieurs années. Depuis les annonces gouvernementales, on a contribué à ce que l'agence du TIGE voit réellement le jour et que les actions qu'on a pu expérimenter avec de nombreux partenaires pendant ces années soient utiles. Aussi pas perdu.
D'accord. Donc on va quand même lancer un appel. De très nombreuses structures qui sont capables d'accueillir des TIGE. Si je suis à la tête d'une association ou d'une entreprise d'intérêt général ou d'une entreprise qui œuvre pour le secteur public, si j'ai bien compris, et que je m'intéresse à la question, quelle est la démarche que je dois faire ? Comment est-ce que je me renseigne ? Comment est-ce que je deviens tuteur ? Allez Léa, t'as envie de parler.
Je pense que les premières questions à se poser en tant que structure, c'est déjà sur quelles activités je souhaiterais proposer, ouvrir un poste de TIGE. Voilà, encore une fois, est-ce que c'est de l'archivage, est-ce que c'est de l'entretien, de l'animation. Donc, définir des activités à proposer et puis trouver un tuteur de la structure qui, sur ces activités, sera prêt à accompagner la personne au quotidien sur son travail d'intérêt général. Et après avoir défini ça, l'objectif, c'est de pouvoir contacter sur son département l'interlocuteur justice qui va enclencher la démarche.
Donc il y a le ministère de la Justice, il y a des délégués régionaux qu'on contacte pour mettre ça en route.
C'est les services pénitentiaires d'insertion et de probation dont parlait Léa tout à l'heure, qui vont être les interlocuteurs des structures d'accueil. Donc il y a un petit dossier d'habilitation pour la plupart des structures, notamment les associations, les bailleurs, donc ils vont devoir remplir un dossier de 2 pages, c'est faisable, c'est à la portée de tout le monde, qui va être validé par le tribunal, et ensuite donc la structure sera apte à accueillir des personnes en TIGE.
Ok, très bien. Les personnes en TIGE sont rémunérées ? Je crois qu'il y a une grille de pourcentage du SMIC, comment ça se passe ?
Alors, c'est les personnes qui travaillent en détention où il y a justement cette grille vis-à-vis du TIGE. En revanche, le travail d'intérêt général, donc en tant que peine, il est basé sur un travail non rémunéré. Ça fait partie aussi de la peine de dire à une personne qui a commis une infraction, maintenant tu vas donner ton temps pour agir pour la collectivité et l'intérêt général.
D'accord, en fait, je me suis embrouillé là. Du coup, mettons que j'ai fait une peine. J'ai la chance d'être éligible à un TIGE. Une association m'accueille. Comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui paye quelque chose? Moi, je donne de mon temps globalement. Je purge ma peine en donnant de mon temps, si j'ai bien compris.
Il n'y a aucun échange financier, du coup. La structure ne perçoit rien pour accueillir des personnes en TIGE. La personne en TIGE ne perçoit rien pour le travail qu'elle fait.
D'accord.
La seule chose qui mise en place, c'est que la personne est couverte et prise en charge par la sécurité sociale sur le temps de son TIGE. Donc voilà, ça a un coût pour le ministère de la Justice aujourd'hui, qui est ce coût de prise en charge.
Okay.
Le ministère de la Justice est l'employeur légal de la personne en travail d'intérêt général, mais il n'y a aucune rémunération.
D'accord, donc le travailleur en TIGE est employé par le ministère et il est en stage chez moi, globalement.
C'est à peu près ça.
Ok, pour simplifier dans les grandes lignes. D'accord. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur le projet? Après, on va parler du futur du projet, on va parler de tout ça, mais sur le chantier passerelle en lui-même, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter? Eh bien, écoutez,
non, on a fait le tour.
Très bien, du coup, avant de passer à la suite, comme vous le savez, on a de très très nombreux auditeurs, et il y en a certains qui ont souhaité vous poser des questions, donc on va les écouter tout de suite. Alors, première question, on a une question de monsieur Jérôme Carviel, qui nous dit « Je maîtrise bien les chiffres, puis-je faire un TIGE au ministère des Finances ?» Alors, sous-entendu, est-ce que c'est plus facile de faire un TIGE déjà quand on dit criminel en col blanc, je crois, quand on fait partie déjà des personnes un peu formées ou qui ont un peu de diplôme? Comment ça se passe aujourd'hui concrètement?
Bonjour monsieur Kerviel.
Monsieur Kerviel, je pense qu'on va vous éloigner des finances nationales pendant tant que faire se peut.
C'est possible de faire un TIGE au ministère des Finances, a priori. Est-ce que c'est plus facile pour les personnes qui ont ce qu'on appelle les délinquants en col blanc de faire un TIGE? Pas sûr. Je pense qu'ils se retrouvent sur les mêmes postes de travail d'intérêt général que tout le monde. C'est ça l'intérêt aussi. Il n'y a pas de raison. Par contre, peut-être que ce qu'on peut constater, c'est que les personnes qui font les délinquants en col blanc sont moins souvent condamnés à des peines de prison. Il y a une espèce de représentation quand même qui est de se dire qu'il y a des gens qui ont leur place en prison et d'autres gens qui n'ont pas leur place en prison. Et on a une petite tendance à estimer que les personnes cultivées, riches et ayant réussi dans la vie n'ont pas leur place en prison. Ce qui est un raisonnement un petit peu bizarre.
Un petit peu faussé, ouais, tout à fait.
Mais de fait, on voit M. Cahuzac qui ne sera pas condamné à une peine de prison ferme.
Donc, l'outil, je n'ai même pas de.
Mais c'est bien, c'est bien aussi que ces personnes fassent un travail d'intérêt général. C'est très bien.
C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un conseil de monsieur Donald T, qui a souhaité rester anonyme. Il dit, alors, moi j'ai mis 1% de ma population en prison, et c'est plutôt cool, vous devriez emprisonner plus. Alors je pense que Donald, on l'a reconnu. Alors effectivement, il y a quasiment 1% des Américains qui sont en prison dans leur pays. Alors nous on a 0,1%, on en a 10 fois moins proportionnellement. C'est peut-être un sujet dont on va parler dans la deuxième partie. Je pense si vous avez des avis sur ce qui peut se passer dans d'autres pays. On parle souvent du modèle américain et du modèle scandinave, je crois, sur les prisons. Mais globalement, est-ce que la remarque de Donald, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Je trouve ça particulier d'être fier comme ça, d'avoir 1% de sa population en prison. C'est quand même pas des indicateurs qui sont très satisfaisants. Je pense que ce que la politique carcérale enseigne, c'est que quelque part, plus on incarcère, et ça c'est quelque chose qu'on constate en France aussi sur l'évolution depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'on a doublé la capacité d'accueil en détention, et on a plus que doublé la population carcérale.
Ouais, ça c'est explosé.
C'est lié au taux de récidive dont on parlait en sortie de prison, mais à un moment quand 2/3 des personnes qui sortent de prison sont recondamnées, les prisons, elles sont remplies par les personnes qui en sortent. Ouais. Et donc, on est appelé à...
C'est le cercle vicieux par excellence.
Donc, si on va dans ce sens-là, on peut pousser jusqu'à... On peut rattraper les États-Unis. On doit même trouver un moyen de les dépasser.
on va essayer de les battre sur autre chose. OK. Merci, Donald, pour ta remarque. Mais voilà ce qu'on en pense. Une question de Monsieur Balkany qui dit « J'ai ma haie à tailler. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mec ou deux ?» Alors, bon, on a déjà pas mal répondu à la question. Mais sur, donc, on rappelle sur quel type d'activité peuvent être faits les tiges. Est-ce que tailler la haie d'un homme politique en fait partie ? Je ne pense pas.
Alors, tailler la haie, ça peut en faire partie. Tailler la haie pour un intérêt privé.
Voilà. Donc, les haies de la mairie.
Voilà, si M. Balkany utilise les moyens de la mairie à des fins personnelles,
c'est pas son genre. Ça se serait. Et puis, il aurait été condamné pour ça. Ok, donc, Madame Balkany. Bon, pour les haies de la mairie, vous pouvez faire une demande. On vous y encourage. Très bien. Donc, deuxième partie. On va parler un petit peu plus du futur du projet, puis on va parler un petit peu plus de vous. Je commence peut-être par Sylvain. La galanterie, on l'oublie dans cette émission. Ton actualité aujourd'hui, c'est quoi, du coup ?
Ben moi, je quitte l'association. Enfin, en tout cas, je quitte l'équipe permanente. Donc, j'ai dirigé l'association pendant 4 ans depuis sa création.
Ouais.
Et avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une nouvelle page qui se tourne pour l'association. Et nouvelle page, nouvelle équipe. Donc, voilà, je suis content de transmettre à Léa, qui fait partie de l'équipe depuis plus de 2 ans maintenant, ce beau bébé.
Ouais.
Et voilà, je resterai pas loin de l'association.
Tu vas rester dans les parages ?
Oui. Mmh. Enfin, tant que l'équipe veut bien de moi de temps en temps, et puis quand il est complètement dehors, c'est que ce sera bon.
Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 années ? D'un point de vue personnel, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ?
C'est une aventure unique et hyper riche. D'abord, l'aventure d'entreprendre. J'ai appris plein de choses parce que quand tu lances une association, tu touches à tout en même temps.
Ouais.
Et du coup, voilà. Ce qui est sûr, c'est que je me suis pas ennuyé. Et puis, ce que je retiens vraiment de ces 4 ans et que je suis sûr de pas perdre, c'est les rencontres avec des tas de gens. D'abord, l'équipe qui s'est formée et les gens avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et puis, tous les partenaires qui se sont mobilisés autour, les gens qui ont accepté de mettre des financements dans le projet. Parce qu'à un moment, pour travailler, il faut aussi des moyens. Et c'est des gens qui prennent des risques à nos côtés, qui nous font confiance, qui croient dans ce qu'on fait. Et ça, c'est des super rencontres. Et puis tous les gens qui se sont engagés bénévolement, soit les tuteurs de tige, soit les bénévoles de l'association, qui ont donné de leur temps. Donc ça, c'est une grosse confiance, une grosse énergie qu'on a pu partager. Donc, je pars surtout avec ça.
Ouais. C'est fatigant de monter un projet comme ça et de bosser dedans pendant 4 ans.
C'est bizarre, c'est épuisant et énergisant en même temps.
Ouais.
C'est aussi par phase. Mais c'est fatigant, ça demande de jamais lâcher, ça demande de prendre sur soi quand il y a des phases un peu compliquées, ça demande de toujours croire à ce qu'on fait, parce qu'on tombe aussi sur des gens qui y croient pas, voilà.
Ouais, bien sûr.
Et il faut quand même réussir à traverser ces étapes-là. Après, c'est énergisant, parce qu'on voit aussi l'impact de ce qu'on fait. C'est une grande liberté de créer et de porter une association. Mmh. Je vais peut-être redécouvrir prochainement ce que c'est que de travailler dans une équipe avec
teasing.
Un chef, et puis, voilà, c'est forcément pas la même chose.
Ouais, bien sûr.
On apprend à retravailler différemment.
Tu avais quoi comme formation au départ ?
Moi, j'ai une formation d'ingénieur de l'École Centrale Paris.
Ouais. Et comment on passe de formation de Centrale Paris à Chantier Passerelle ?
Par une association qui s'appelle Genepi. Qui fait du soutien scolaire aux personnes placées en détention. Pas que du soutien scolaire, d'ailleurs, de moins en moins de soutien scolaire, mais plutôt des actions culturelles en détention.
Okay.
Donc, j'ai eu l'occasion de rentrer dans une maison d'arrêt à Fresnes pendant 2 années et d'accompagner une personne détenue. Donc c'est là que j'ai fait la découverte de ce milieu. Et je savais que j'avais pas envie de travailler dans une grande entreprise comme mon diplôme m'y encourageait. Voilà. Donc j'étais un peu en recherche de mon avenir professionnel, et l'un a rencontré l'autre pour me dire ça peut être intéressant de créer quelque chose et voir ce qu'il y a à faire sur le terrain.
D'accord. Sans déflorer le mystère de tes futures destinations, tu veux rester dans cet univers-là, dans le monde associatif, ou en tout cas dans un univers engagé, ou tu veux vraiment partir sur autre chose, voir un peu de nouvelles choses? Tes envies aujourd'hui, qu'est-ce que
c'est ? Non, je pense rester dans les mêmes dynamiques. Je crois que à la fois le sujet de l'économie sociale et solidaire est un courant que je pense transformateur pour notre société, ouais. Et j'espère y rester. Et puis si les années que j'ai consacrées au développement du travail d'intérêt général peuvent servir à quelque chose dans les prochains mois, j'espère que ce sera le cas.
Bon bah écoute, en tout cas on te souhaite bon courage pour la suite.
Merci.
Et du coup on va parler de Léa, donc Léa qui reprend le bébé. qui récupère la... Donc on dit délégué général pour une association, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, délégué général, directeur, ça varie un petit peu des envies du moment.
D'accord. Donc avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, tu as quelle formation toi au départ, Léa?
Plutôt côté juriste. Moi j'ai un master 2 en droit public, sciences politiques.
Si personne n'est parfait, c'est pas grave. Donc, très bien. Et donc tu étais déjà, par exemple, peut-être plus prédestinée à travailler
Pas forcément sur ce sujet-là, finalement, parce que quand on intègre une fac de droit, le sujet prison, il n'est pas particulièrement mis en avant.
Okay.
Et le sujet droit public, encore moins. Le milieu de la fac de droit est un milieu qui est quand même... je trouve parfois assez élitiste et pas facile d'accès. Et du coup, moi, en fait, plus je me suis intéressée au sujet carcéral, plus mes proches, mon entourage, qu'ils soient universitaires ou personnels, me disaient mais pourquoi tu t'intéresses à ce sujet-là ? Pourquoi tu vas t'intéresser à ces personnes ? Va pas vers ça, fais magistrat, va dans le droit des affaires, c'est quelque chose qui peut avancer. Et en fait, plus on me disait ça, plus ça me confortait dans l'idée d'aller vers l'objectif que je m'étais fixé, qui était de m'intéresser à un sujet qui aujourd'hui est un des grands oubliés de la société.
Ouais.
Et j'avais envie d'allier à la fois des connaissances sur comment notre société s'organise, et puis un objectif de social sur comment on permet aussi l'accès au droit à tout un chacun en France.
D'accord. Donc à la sortie de tes études, tu as commencé chez Chantier Passerelle.
À peu près.
À peu près. À peu de choses près.
À peu près. Ça fait 2 ans du coup que j'ai rejoint l'association. Du coup au début sur la question du travail d'intérêt général particulièrement. C'est une association qui m'a en fait beaucoup plu, interpellée, parce que je trouve qu'elle détonnait dans l'univers des associations qui agissent sur le sujet justice. Elle avait cette fibre justement entrepreneuriale qui m'a plu, cette dynamique, cette agilité, cet optimisme aussi, parce que je trouve que aujourd'hui l'optimisme c'est une denrée rare.
Ouais, tout à fait.
Et je trouve que moi c'est quelque chose qui me porte au quotidien dans cette association. C'est en fait... t'écoutes la radio le matin, tu vois les infos, t'entends les gens autour de toi, notre société va mal, hyper flippant.
Il ne faut pas ni écouter, ni regarder les... Écoutez qui est une superstar, mais alors n'écoutez pas le JT à la radio, c'est
important
cauchemar.
D'être informé, mais c'est important aussi de sentir qu'on peut agir. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, dans ce qu'on renvoie aux citoyens, c'est une sorte d'idée que... Personne ne peut agir, peut-être seulement ce qu'on appelle les pouvoirs publics, les décideurs, mais je trouve que décideurs, c'est aussi nous à l'échelle individuelle qui pouvons faire quelque chose. Et en fait, si aujourd'hui on répond au niveau carcéral avec une peine de prison comme peine massive, c'est aussi parce que l'opinion publique réclame souvent cette peine-là. Mmh. Et je pense que la question de Monsieur Donald Trump tout à l'heure était assez édifiante sur le sujet. En fait, ça rassure peut-être aussi une partie de l'opinion publique de se dire que ceux qui ont fait du mal à la société vont être neutralisées. En fait, les personnes, elles sont peut-être neutralisées dans le sens où finalement elles sont complètement exclues de la société, mais elles sont quand même amenées à y retourner un jour. Et si elles y retournent plus violentes, plus désocialisées, et qu'elles récidivent, finalement la société elle a pas gagné.
Ouais, le sujet, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il y a c'est un sujet qui est éminemment politique et qui en période d'élection du coup est plus ou moins récupéré par tel ou tel parti. Est-ce que le fait qu'il y ait que ça soit un sujet qui justement soit très souvent traité par des politiques, est-ce que ça vous met des bâtons dans les roues quelque part? Est-ce que ça vous empêche de travailler correctement? Parce qu'on a l'impression que, en fonction de... L'impression, je vais vous donner mon impression de citoyen. En tant que personne qui n'y connaît rien. Alors, après une heure avec vous, je commence à connaître un peu mieux, mais qui n'y connaît rien. J'ai l'impression que c'est un sujet qui ne ressort que tous les 5 ans en période d'élection et va être traité par les partis qui veulent se montrer un peu costaud en disant ben il faut mettre des coups de bâton, aux partis qui veulent se montrer un peu sympa, ah bah faut faire de la câlinothérapie, et puis qu'en fait on n'a pas de vrai. Enfin, j'ai l'impression que ça va à l'encontre de tout ce que vous me dites depuis une heure en fait. C'est-à-dire que vous, je vois que vous bossez, je vois que vous avez une approche super intelligente du truc, et le peu qu'on en entend en tant que citoyen, c'est des récupérations politiques. Ça vous met des bâtons dans les roues, ça vous indiffère, ça. Comment vous le sentez ça?
Je pense que c'est nécessaire d'agir à plusieurs niveaux, en fait. Mmh. C'est à la fois nécessaire d'informer ce qu'on appelle les décideurs, donc à la fois les parlementaires et puis les gouvernements sur, bah, sur cette thématique-là, et qu'en tant qu'expert du sujet, les associations notamment puissent apporter leur expérience et leur expertise pour sensibiliser et informer. Et après, c'est aussi nécessaire, encore une fois, de travailler au niveau de l'opinion publique pour qu'elle cesse peut-être de réclamer une peine qu'elle connaît trop peu et qui la rassure. Et c'est pour ça que nous, on développe et on mène des actions de sensibilisation. Deux fois par mois, on organise des événements, donc on emmène des citoyens voir des procès. On organise ces fameux apéros justice, on organise tout un tas d'événements qui permettent déjà aux citoyens de se dire je suis légitime de m'intéresser au sujet, et puis je vais m'y intéresser et le comprendre différemment qu'au travers d'une fac de droit. Ouais. Et que voilà, tout un chacun a le droit de s'intéresser au sujet, et l'objectif c'est aussi de le rendre peut-être un peu plus séduisant, parce que bon, le sujet de justice des plus attirants, je pense. Donc voilà, l'idée, c'est par des événements. Là, on a organisé un village des initiatives justice-prison en juin dernier à Lyon, où, en fait, sur la place publique, une dizaine d'associations locales étaient venues présenter ce qu'elles faisaient. Et en fait, on attirait, entre guillemets, les passants par des outils ludiques. Donc on avait reconstitué une cellule de prison avec un escape game pour en sortir et aussi découvrir ce que c'est le quotidien d'une personne ou des personnes incarcérées, puisque parfois elles sont trois dans une même cellule. Des débats mouvants, des choses comme ça. Et puis, une fois les citoyens intéressés, on les amenait à dire « regardez ce qu'il est possible de faire ». Et par ce biais-là aussi, on travaillait avec les associations du territoire à valoriser leur action, à la rendre lisible et à recruter de potentiels bénévoles aussi.
Donc, en termes d'événements que vous organisez, on peut peut-être dire deux mots dessus. C'est comment est-ce qu'on vous rencontre? Comment est-ce qu'on va à ces fameux apéros? Donc, c'est des apéros...
Justice.
J'allais dire apéro judiciaire. Non, apéro justice. Vous communiquez dessus par quel biais?
Alors, aujourd'hui, les formats de communication, on s'adapte aussi au format actuel. Donc, on communique beaucoup par les réseaux sociaux, principalement Facebook. Il y a une très grosse communauté qui nous suit à travers ça.
Après, donc, sur le Facebook de Chantier Passerelle, je vois les dates des apéros et les lieux des apéros
Oui, et Chantier Passerelle a créé... le nom de cette action de sensibilisation, c'est Décode Pénal. Et donc, du coup, il y a une page spécifique Décode Pénal sur Facebook. Qui permet de suivre ces événements. Et du coup, c'est par ce biais-là, par exemple, qu'on informe sur les procès, qui sont à chaque fois complets, d'ailleurs. On communique principalement par ce biais-là, aussi par newsletter et par bouche à oreille, parce que c'est comme ça aussi que ça marche. Ouais. C'est comment on amène des bénévoles ou des participants à revenir la fois prochaine avec son voisin, son collègue ou sa famille, pour par ce biais-là aussi, en tant que citoyen, informer autour de soi, parce qu'on peut tous aussi agir à ce sujet-là.
Vous faites ça à Lyon, ou vous le faites aussi un peu, j'allais dire en province, vous le faites aussi dans d'autres grandes villes?
Pour l'instant, on l'a principalement porté à Lyon. C'est arrivé ponctuellement qu'on travaille avec d'autres associations à Paris ou en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pour l'instant, on développe ça à Lyon, à voir pour la suite.
Vous avez des initiatives proches de la vôtre, desquelles vous vous sentez proche en tout cas, dont on peut faire la promo, là, des initiatives sœurs peut-être dans d'autres villes ou des gens qui travaillent sur le même thème?
Il y a des belles associations qui bougent. Il y a une association qui a démarré en région parisienne, qui s'appelle Champ Libre, où le principe, c'est que des bénévoles de l'association accompagnent des intervenants en détention ou dans des lieux avec des personnes placées sous main de justice à l'extérieur, donc des CHRS, par exemple. Donc l'intervenant va venir avec une thématique. Il y a des astrophysiciens qui sont allés en prison, mais des gens qui viennent sur le journalisme ou autre. Et donc, ça va être une rencontre entre quelqu'un qui a envie de partager sa passion et puis un groupe de personnes détenues qui ont un intérêt sur le sujet ou ont juste envie d'élargir un peu leurs connaissances ou de rencontrer quelqu'un. C'est une super belle association.
Ok. Eh ben, on les salue. On les salue. Le futur de Chantier Passerelle, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Peut-être voilà, un tout petit mot sur la suite. Ce que l'association a pu faire depuis bientôt 5 ans, c'est finalement contribuer au pouvoir d'agir citoyen sur le sujet justice-prison. Et c'est quelque chose qu'on souhaite continuer à faire et développer à partir de cette première expérience réussie en faveur du travail d'intérêt général. Principalement, développer des actions pour sensibiliser, mobiliser et accompagner à l'engagement la société civile en faveur de la réinsertion des personnes condamnées. Et donc s'adresser à différents acteurs de la société civile et notamment à un secteur qui est en voie de développement, qui est l'entrepreneuriat social. Mm-hmm. Aujourd'hui, les entrepreneurs sociaux agissent sur plusieurs thématiques, l'environnement, les migrations, beaucoup de sujets nécessaires. Pour autant, le sujet justice-prison, il reste très en marge de cet engagement-là, principalement par, encore une fois, manque d'informations, manque d'accompagnement spécifique sur ce sujet. Et c'est pour ça que là, on lance un premier programme pilote d'accompagnement des entrepreneurs sociaux à agir sur le champ justice.
Okay.
C'est un programme qu'on lance en partenariat avec Ronalpia, qui est un incubateur d'entrepreneuriat social.
Qu'on a reçu l'an dernier, oui.
Voilà. Et en partenariat avec les deux fédérations du secteur, donc la FARAPEJ et Citoyens et Justice.
Okay.
Donc voilà, programme pilote sur Rhône-Alpes pour
ça démarre, ça démarre cette année.
Alors ça démarre cette année et même c'est en plein dedans puisque l'appel à candidature a commencé et okay. Il se clôture le 30 novembre. Donc voilà, ça sera peut-être trop tard au moment de la diffusion.
Alors ouais, il sera malheureusement
un petit tweet de Quinoa Superstar. Ouais.
Un petit post Facebook de Quinoa Superstar avec grand plaisir. Tu me donneras toutes les informations et ce sera relayé.
Avec
plaisir. Donc c'est finalement une nouvelle façon d'agir. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Quand je dis on, c'est les auditeurs de Quinoa Superstar, c'est toutes les personnes qui ont une conscience citoyenne et qui s'intéressent à ces sujets-là. Comment est-ce qu'on peut contribuer à Chantier Passerelle? En parler déjà, j'imagine.
En parler, en effet. Participer à nos événements, participer à un apéro justice ou à tout autre événement qu'on organise sur le sujet. Devenir ambassadeur aussi de l'association, on fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire comment on va pouvoir outiller des citoyens pour aller parler avec des clés à leurs entourages professionnels, sociaux, mm-hmm. Et donc permettre finalement que ce sujet-là il soit accessible à toutes et à tous. Après, comment on peut aider l'association? Ça peut être aussi par un don, parce que l'association, comme le disait Sylvain, elle repose aussi sur l'application de financeurs individuels et autres. Donc voilà, ça peut être aussi par ça.
Donc en tant qu'association, vous êtes habilité à recevoir des dons. Est-ce que ça a un impact sur les impôts peut-être de ceux qui vous donnent des sous? Ça peut être déduit ou pas? Je sais pas comment ça
va. C'est déduit, je crois, à 60%.
60%?
Oui.
Et les fondations d'entreprise peuvent éventuellement vous financer, j'imagine, si vous êtes au format associatif. Donc, voilà, ceux qui nous écoutent, et on en reçoit de temps en temps, donc je leur ferai passer le message. N'hésitez pas, si vous avez quelques sous qui traînent dans un tiroir, il y a un beau projet qui a besoin de vous. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à toi.
Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. On va faire un petit quiz, tous les trois. Vous allez voir, c'est très simple.
Il y a un gagnant entre nous deux à la fin.
Ouais. Il y a aucun critère objectif. C'est juste moi qui décide. C'est absolument. Ah ouais, non, mais là, on n'est pas dans une démocratie. Attention, là. C'est une démocrature qui est une superstar. Vous pouvez tous vous exprimer, mais c'est moi qui décide. Donc.
Et la galanterie n'a toujours pas.
Et la galanterie, non. Alors,
on peut jouer.
Du début, non, on a décidé qu'il n'y en aurait pas. Alors, on est pour l'égalité complète de tout le monde. Le quiz consiste à... Je vais vous donner deux alternatives, il faut en choisir une. Pas celle que vous préférez, vous choisissez l'une, l'autre n'existe plus. C'est-à-dire, si je vous demande littérature ou musique, vous choisissez si vous préférez la littérature, mais dans ce cas-là, la musique, vous n'en écoutez plus jamais de votre vie, en théorie.
C'est terrible.
Et la musique, c'est-à-dire que vous ne lisez plus jamais de votre vie. Voilà. Donc on va se lancer, c'est juste pour en connaître un petit peu plus sur vous. Et souvent, c'est assez révélateur, c'est rigolo. Première question. Vegan ou viande de qualité ?
Viande de qualité.
Ah.
Vegan.
C'est bon, je dis à chaque fois la même chose, mais pendant la première saison, en fait, je posais pas exactement la même question. Je disais, qu'est-ce que tu préfères ? Tout le monde dit, ah, vegan, c'est quand même mieux, etc. Depuis que je donne l'alternative blanc-noir, la viande a gagné beaucoup de points dans les questions. Mais donc, vegan pour toi ?
Oui, je suis déjà végétarienne.
T'es déjà végétarienne ? Très bien. Bah, tu fais partie des gens qui contribuent à sauver la planète. C'est pas comme nous. du coup, littérature ou musique ?
Littérature, clairement.
Moi aussi, mais c'est dur.
Ah oui, bah oui, c'est forcément dur.
De la littérature chantonnée, ça passe ?
Non. Littérature monocorde. C'est de la littérature. Tu lis sur un ton monocorde, systématiquement. Question probablement plus simple. Apple ou Microsoft ?
Microsoft.
Apple, malgré la défiscalisation agressive.
Oui, enfin les deux. Hein,
oui.
Globalement, tous les GAFAM ne payent pas beaucoup d'impôts en France. Question geek, blockchain ou intelligence artificielle ? Si vous ne connaissez aucun des deux, choisissez au hasard.
Blockchain.
Je sais même pas ce que c'est blockchain, je suis désolée.
C'est pas grave. T'as entendu parler du Bitcoin ?
Oui.
Et ben, le Bitcoin est basé sur une technologie qui est la blockchain, okay. Mais qui sert à beaucoup d'autres choses, mais qui est moins connue. Bon, bah, tu préfères...
celui-là, alors.
Ouais, non, ouais, ok, très bien. Du coup, ma question plus simple, gonette ou Bitcoin ? La gonette, vous savez ce que c'est ou pas ?
Ouais. Gonette.
Ah, bon. Donc, unanimité pour la gonette. Est-ce que vous choisiriez une trottinette électrique ou une gyro-roue ? Donc, gyro-roue, je ne sais pas si vous les voyez, on en voit pas mal en ce moment.
C'est de l'espace, là.
Ouais, on a une seule roue entre les deux pieds et on se balance en avant ou en arrière pour avancer.
Je prends la gyro-roue.
La gyro-roue, classe.
Moi aussi.
Mais casse-gueule. Hein. Ok, gyro-roue pour tous les deux. Mer ou montagne ?
Montagne.
Ouais, moi aussi.
Montagne tous les deux ? Très bien. Et la dernière question, la plus importante de toute cette heure qu'on vient de passer ensemble, est-ce que vous préférez les curly ou le curling ? En fonction de cette réponse, ça va en dire beaucoup sur vous.
Donc, si j'avais su.
Le curling.
Le curling. Ouais,
les Jeux Olympiques d'hiver sont curling, c'est...
Ah là, curling à ma gauche.
Et bah les curly juste par esprit de contradiction.
Curly par esprit de contradiction. Bon bah très bien. Bah écoute, en fait ce que je vais faire, donc je vais couper tout ce qu'a dit Léa pendant l'interview, je vais pas la diffuser. Parce que quelqu'un qui choisit les curly plutôt que le curling, je ne peux pas permettre de mettre cette personne en avant. Donc bravo à toi. Voilà, t'as gagné. Non, merci vraiment à tous les deux d'avoir passé ce moment avec nos auditeurs. On vous retrouve, donc tu nous as donné. Je mettrai dans les commentaires tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver, puis les événements que vous animez. Sylvain, bon courage à toi.
Merci.
Pour ton futur. Et puis ben, on espère vous revoir bientôt.
Avec plaisir.
À bientôt, salut.
Merci
à tous les deux.
À bientôt.
Ciao. Voilà, l'émission est maintenant terminée. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. Si vous voulez nous soutenir, prenez quelques instants pour nous donner une bonne note sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcasts et SoundCloud. Et n'hésitez pas à le faire connaître à votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues de boulot, votre mémé, votre patron. S'il y a des personnes que vous souhaiteriez voir invitées dans Kinoa Superstar, faites-le nous savoir et nous essayerons de les avoir dans une prochaine émission. En temps normal, l'émission est diffusée tous les 15 jours, donc s'il n'y a pas de catastrophe d'ici là, je vous dis à dans 15 jours. Salut à tous. We'll be right back. Thank you.